Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes toujours au chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Luc. Nous venons de terminer la lecture de la généalogie, donc du chapitre 3 de Saint-Luc, verset 23 jusqu'au verset 38. Ces généalogies qui nous semblent relativement superficielles pour nous, sans importance, avaient une énorme importance pour les Juifs, parce qu'il fallait prouver constamment que notre Seigneur Jésus-Christ était de la race de David, puisque c'était la prophétie. Il était prévu que le Messie viendrait de la race de David. Et donc, ces généalogies sont historiquement très importantes pour eux. C'est aussi important, je vous l'ai déjà dit, pour prouver l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas simplement fils de Dieu, il est également homme. Homme qui vient prendre notre humanité dans la race de David. C'est important non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils. N'oublions pas que Saint Luc va surtout écrire, comme correspondant en quelque sorte de Saint Pierre, en grec, pour les gentils. Et donc ces généalogies sont plus importantes qu'on ne le pense, même si les détails des noms sont un peu sans importance pour nous, sans grande importance pour nous. Alors, les pères font remarquer, on est à la page 34 sur le polycopier, les pères font remarquer que la généalogie rapportée par Saint Matthieu est meilleure, mais que Saint Luc lui saute d'un bond jusqu'à la nouvelle naissance que Jésus semble prendre dans les eaux du baptême. Le baptême représente une renaissance. Donc la généalogie physique, l'ordre physique depuis notre Seigneur Jésus-Christ, en redescendant jusqu'à Adam, ce lien physique représente et le symbole d'un lien spirituel qui doit unir l'âme à notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ remonte de Dieu qui a créé le premier homme, Adam, de la même façon, notre âme doit descendre ou remonter, comme vous voulez, de notre Seigneur Jésus-Christ pour vivre en état de grâce. Et c'est par l'état de grâce, la présence en nous de l'état de grâce, l'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est ce qu'est l'état de grâce, la charité, que nous renouvelons cette généalogie, cette filiation, puisque nous sommes fils de Dieu, nous, non par nature, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'était, mais nous sommes fils de Dieu par adoption. Donc cette généalogie physique qu'on trouve en Saint Luc représente une généalogie spirituelle. Donc attention, disent les pères, on est à la page 34 sur le polycopie, attention à ceux qui veulent recevoir le baptême sans aucune disposition. Cette généalogie arrive après le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Attention à ceux qui veulent recevoir le baptême sans aucune disposition, à ceux qui se montrent dédaigneux et fiers à l'égard des dispensateurs des saints mystères qu'ils voient plus élevés en dignité, à ceux qui, pleins de confiance dans leur jeunesse, s'imaginent qu'on peut à tout âge se charger de l'enseignement ou des fonctions redoutables du sacerdoce et de l'épiscopat. Je vous ai déjà expliqué que l'âge parfait est représenté par l'âge de la mort du Christ, 33 ans, que la tradition voulait chez les Juifs qu'on n'enseignât pas comme professeur avant cet âge Parfait. Là, j'ai 33 ans. Donc avant, c'était une période de formation personnelle, puis après, on pouvait commencer à transmettre ce qu'on avait reçu. Alors, Saint-Luc va passer sous silence, sa généalogie est incomplète, parce qu'il va passer sous silence le nom des rois coupables que Saint Matthieu avait inséré, lui, dans sa généalogie, parce que tout homme qui reçoit de Dieu une nouvelle naissance devient étranger à ses parents coupables, en qualité d'enfant de Dieu, et il ne fait mention que de ceux qui ont mené une vie vertueuse aux yeux de Dieu. En fait, les deux généalogies se complètent. Bon. Saint Matthieu voulait bien surtout montrer que notre Seigneur Jésus-Christ allait se charger, allait prendre sur son humanité les péchés des hommes. Et donc, il incorpore dans sa généalogie les pécheurs, les rois coupables, et tous ceux qui avaient prévariqué. Alors qu'au contraire, Saint Luc, lui, surnaturalise les choses de façon supérieure et ne révèle donc, ne donne les noms que des gens qui ne sont pas des pécheurs, au moins publiquement. Donc Saint Luc suit aussi, sans doute, la loi du Lévira pour les noms. Donc ces généalogies ne sont pas toujours très claires. Il nous donne la généalogie des ancêtres adoptifs de Saint Joseph parce que c'est la foi au Fils de Dieu qui nous fait adoptifs de Dieu, enfants adoptifs de Dieu. Tandis que la généalogie naturelle nous apprend plutôt que c'est pour nous que le Fils de Dieu est devenu homme, Fils de l'homme, en l'année 5199 de la création du monde. Cette date se trouve dans le martyrologe. Le martyrologe, c'est-à-dire le livre liturgique qui contient tous les saints. Pour la fête de Noël, on a une généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ qui est datée. Et donc c'est de ce passage que j'ai tirer cette information qu'on trouve dans les Pères de l'Église. Pour ceux que cela intéresse, je vous donne le texte. Donc, c'est le martyrologe du 25 décembre, de la nuit de Noël. Depuis la création du monde, quand Dieu au commencement tira du néant le ciel et la terre, l'an 5199. Donc, 5199, depuis la création du monde. Depuis le déluge, l'an 2957. Depuis la naissance d'Abraham, l'an 2015. Depuis Moïse et la sortie du peuple d'Israël et de la terre d'Égypte, l'an 1510. Depuis le sacre du roi David, l'an 1032. Dans la 65e des semaines d'année prédites par le prophète Daniel. Dans la 194e Olympiade, dans la 752e année de la fondation de Rome et la 42e année de l'empire d'Octavien Auguste, tout l'univers reposant dans la paix, au 6e âge du monde, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, le 25 mars, naît à Bethléem de Judée, Juda, fait homme de la Vierge Marie. Donc c'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Donc les deux dates importantes, c'est la date de la création du monde, 5199, et la date du déluge. Donc en gros 5000 ans pour la création et 3000 ans, 2957 ans pour la date du déluge. Alors attention, ces dates varient selon les différentes versions de la Bible. Il y a des divergences. C'est pour cela que l'Église n'a jamais enseigné de façon infaillible une date pour la création du monde. Par contre, l'Église a toujours enseigné que la création d'Adam et Ève par Dieu ne remontait pas à des millions d'années, comme prétendent les gens modernes, qui non seulement prétendent des bêtises sur ce sujet, mais en plus nient la création de l'homme par Dieu. Donc, selon les versions, on peut difficilement remonter à plus de 7000 ans. Donc, vraisemblablement en création d'Adam et Ève entre 5 et 7 000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. On est encore une fois sur le caractère historique de ces dates, l'Église ne s'est pas prononcée. Cependant, il y a une tradition dans l'Église. C'est pour ça qu'on peut dire, on peut enseigner que le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, donc est né à Bethléem l'année 5199 de la création du monde. Alors, Saint Matthieu fait remonter sa généalogie jusqu'à Abraham, mais Saint Luc lui va plus loin et remonte jusqu'à Adam. En fait, il remonte jusqu'à Dieu, puisque le verset 38 dit, il parle de la descendance de la généalogie, qui le fut d'Enos, qui le fut de Seth, qui le fut d'Adam, qui le fut de Dieu. Donc on remonte jusqu'à Dieu. Donc pour montrer encore une fois que la chair assumée par Jésus-Christ remontait par Adam à Dieu. Donc le Christ est à l'origine des vivants et Adam l'origine des morts, disent les pères. J'aime beaucoup cette phrase. Donc le nouvel Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu rattraper le premier Adam. Donc le premier Adam a apporté la mort dans le monde, pas le péché originel, transmis depuis Adam à toute la génération de tous les hommes qui vont descendre d'Adam, c'est nous tous, alors qu'au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, va transmettre la vie. Donc notre Seigneur rattrape la bêtise d'Adam. Le deuxième Adam rattrape la bêtise du premier Adam. De la même façon, il y a une autre comparaison qui est faite par les pères, qui est très, très belle, qui explique que la première Ève qui a porté la mort dans le monde va être rattrapée par la deuxième Ève qui est la très sainte Vierge Marie. Et les pères font remarquer que le nom Ève, Eva en latin, E-V-A, est l'inverse de la première phrase prononcée par l'ange Gabriel, lorsqu'il est venu visiter la Sainte Vierge Marie le 25 mars, Ave Maria, A-V-E. C'est l'inverse, pour bien montrer que la Sainte Vierge Marie vient remettre à l'endroit, en quelque sorte, ce qui a été mis à l'envers par Adam et Ève. Donc le Christ est vraiment celui qui peut sauver tous les hommes, même ceux nés avant le déluge. Les hommes avaient été menés par Adam loin de Dieu, mais seront ramenés vers lui par Jésus. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a comme titre aussi le nouvel Adam. Parfois, chez certains pères, ils utilisent le terme du second Adam. Le second Adam, le nouvel Adam, c'est celui qui rattrape la prévarication du premier Adam. Donc Saint Luc part de l'humanité du Christ. C'est le verset 23 du chapitre 3. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Bon. Donc, Saint Luc part de l'humanité et remonte à sa divinité pour bien montrer que le Christ a commencé comme homme, mais qu'en tant que Dieu, il n'avait pas de commencement. Son Seigneur Jésus-Christ a une double nature, n'oubliez pas. Il est vraiment Dieu, vraiment homme. Donc, en tant pour bien montrer qu'il est véritablement homme, Saint Luc explique qu'il était, comme on le croyait, fils de Joseph, puisque Saint Joseph n'est que le père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a obtenu sa humanité par sa mère, mais il n'a pas de père humain. Et la généalogie va descendre jusqu'à notre Seigneur, jusqu'à Dieu lui-même, puisque c'est la fin de la généalogie, au verset 38, Adam qui le fut de Dieu. Donc Dieu, si vous voulez, on voit très bien dans cette généalogie, en quelque sorte, la double nature chez notre Seigneur Jésus-Christ. Première partie de la généalogie, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Dernière fin de la généalogie, on montre le retour à Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc vraiment Dieu et vraiment homme. Parce qu'il est Dieu, il peut nous sauver. Parce qu'il est homme, il peut mourir sur la croix. C'est des choses qu'il faut bien comprendre, même si ce n'est pas très facile. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour souffrir. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour mourir parce que Dieu ne peut pas souffrir. Donc les hommes sont éloignés de Dieu, ont été éloignés de Dieu par Adam, mais seront ramenés vers notre Seigneur Jésus-Christ, justement par notre Seigneur, par Jésus lui-même. Donc Saint Luc part de l'humanité du Christ, remonte à sa divinité, plus exactement redescend sa divinité, pour bien montrer que le Christ a commencé comme homme et qu'en tant que Dieu, il n'avait pas de commencement. Donc les pères font remarquer qu'il y a 77 générations indiquées ici pour signifier la rémission et l'abolition de tous les péchés. Rappelez-vous les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à Saint-Pierre. Le Seigneur avait commencé à expliquer le mystère de la confession. Saint-Pierre n'avait pas tout compris. On est encore longtemps avant la Pentecôte. Il n'a pas encore reçu les dons du Saint-Esprit, donc. Et Saint-Pierre a posé des questions, savoir combien de fois il faut pardonner. Et notre Seigneur Jésus-Christ répond, il ne faut pas pardonner une seule fois, mais 77 fois cette fois. Pardonner non pas 7 fois, mais 77 fois cette fois. Vous voyez ? Et ce chiffre 77, qui est un chiffre symbolique, 77 fois, cette fois il ne faut pas le prendre au sens propre, ça veut dire il faut constamment pardonner si le pénitent qui se présente au pied du prêtre a le regret de ses péchés. Si la contrition, l'accusation, la réparation, il faut pardonner même si c'est des centaines et des centaines de fois dans une vie. Vous savez, on peut facilement aller plusieurs centaines de fois à la confession au cours d'une vie. Quelqu'un qui se confesse toutes les semaines va aller plusieurs centaines de fois à la confession, à se confesser. Donc ce nombre de générations, 77 générations, indiquées ici dans le texte de Saint-Luc, représentent la miséricorde de Dieu pour le pécheur pénitent. Alors, un autre symbole de cette génération humaine de notre Seigneur, c'est celle qui est préfigurée par l'échelle de Jacob. Donc Jacob qui avait vu des anges monter et descendre le long d'une échelle mystérieuse qui reliait le ciel et la terre. Donc les côtés de l'échelle représentent les princes et les pères, comme Abraham et David, auxquels la promesse a été faite. Le dernier échelon sur lequel le Seigneur s'appuie représente Saint Joseph. Le Christ s'appuie sur lui comme l'élève sur le maître. Donc Saint Joseph a vraiment le titre de père de notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il n'est que père putatif, père nourricier. C'est pour cela que le texte dit... En parlant de Joseph, on le croyait fils de Joseph. Il n'est pas fils de Joseph physiquement, mais il est fils de Joseph putativement, en sens que Joseph avait pour fonction de garder la Sainte Famille. C'est une fonction énorme. Il était chef de la Sainte Famille. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de se faire diriger par celui de la Sainte Famille, le membre de la Sainte Famille qui était le moins saint. Sur Sainte Vierge Marie, a obéi à Saint Joseph. Et ce qui explique le titre de Saint Joseph, extraordinaire, il est patron de l'Église universelle. On pourrait croire que le patron de l'Église universelle, c'est Dieu. Bon, Dieu est le fondateur de l'Église. Mais le patron de l'Église, c'est Saint Joseph. Donc, il nous faut, en quelque sorte, nous-mêmes, continuer cette échelle. Cette échelle descend du ciel à la terre, et elle doit aller jusqu'à notre cœur. Donc il faut rajouter les barreaux qui correspondent à notre fonction dans l'Église. Nous sommes non pas fils de Dieu par nature, nous sommes fils de Dieu par adoption. Alors, Judas, disent les pères, est la figure prophétique du mystère de la passion du Seigneur. Joseph est donc le parfait modèle de la chasteté. Siméon, le vengeur de la pudeur outragée, et Lévi, le représentant du ministère sacerdotal. Donc les pères de l'Église, en fait, vont reprendre de nombreux noms dans cette généalogie et donner le symbole de chaque nom. Donc je passe là-dessus parce que c'est quand même un peu des détails. Ce sont des détails linguistiques, si vous voulez. L'important, c'est de comprendre les raisons de cette généalogie pour prouver, montrer à qui pouvait en douter la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est parfaitement Dieu, il est parfaitement homme. Donc, Saint Matthieu écrivait pour les Juifs. Et s'est proposé seulement d'établir dans son récit que Jésus-Christ descendait d'Abraham et de David, parce que c'était ce qui intéressait justement les Juifs. Il fallait constamment que Saint Matthieu prouvât que notre Seigneur Jésus-Christ était de la race de David, pour satisfaire les Juifs. Saint Luc, au contraire, dont l'évangile s'adressait d'abord aux gentils, aux païens, poursuit la généalogie jusqu'à Adam. Donc il va même citer Enoch, qui n'est pas passé par la mort, pour signifier que ceux qui ont été régénérés dans l'eau et l'Esprit Saint seront reçus dans le repos éternel. C'est un mystère, on ne sait pas exactement où est Enoch. Il est dans un lieu dont on ne connaît rien, pas grand-chose, et il reviendra à la fin du temps pour lutter contre l'Antéchrist. Donc Saint Matthieu a voulu surtout nous représenter le Seigneur descendant jusqu'à notre nature faible et mortelle. Et dans ce dessin, il commence son évangile par la généalogie de Jésus-Christ en descendant d'Abraham jusqu'à lui. Pour bien montrer en quelque sorte que notre Seigneur Jésus-Christ a accepté nos misères humaines. Notre Seigneur Jésus-Christ nous est égal, nous aide, nous, si vous voulez, est devenu l'un d'entre nous en tout, comme un homme, sauf le péché. Et donc, on ne peut pas accepter en notre Seigneur Jésus-Christ des choses qui s'opposent à la divinité. La divinité est unie à l'humanité. C'est l'humanité, la divinité qui va assumer cette humanité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est égal, est vraiment un homme en tout, égal comme nous, égal à nous en tout, sauf le péché. Donc, il a même accepté d'être tenté. Et accepter des temps de désolation. Rappelez-vous, Gethsémani, mon âme est triste à en mourir. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ, on voit bien dans les trois tentations, tentation de changer les pierres en pain, tentation de présenter par le démon pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ, au-delà de la montagne, d'adorer le démon, tentation d'orgueil aussi en se jeter du temple. Donc ces tentations étaient présentées par le démon, mais évidemment ces tentations n'ont jamais pénétré même superficiellement le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ puisqu'il est Dieu. Alors continuons d'expliquer à partir de ces textes des pères de l'Église. Donc Saint Luc, lui, ne parle pas aux Juifs, je vous l'ai dit, il parle en grec, il écrit en grec pour les gentils. Donc il ne donne cette généalogie qu'après le récit du baptême de Jésus-Christ, alors que Saint Matthieu donne sa généalogie dès le début. Il commence son évangile avec la généalogie. Saint Luc va attendre le récit du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ avant de donner cette généalogie. Et il suit un ordre tout différent. Et qu'il remonte des enfants à leur père. Son but, disent les pères, est surtout de faire ressortir dans la personne du Sauveur le caractère du pontife qui doit effacer les péchés. C'est pourquoi il donne sa généalogie qu'après qu'une voix du ciel a fait connaître ce qu'il était. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est souverain prêtre. Mais il est souverain prêtre parce qu'il est homme. Donc il est souverain prêtre, souverain prophète, en tant qu'homme. Mais homme avec la vision béatifique de la divinité. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette généalogie est une échelle. D'où la comparaison avec l'échelle de Jacob. Et il nous faut, nous aussi, monter les barreaux de cette échelle afin de pouvoir nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que disent ici les pères d'Église en bas de la page 34 sur le polycopier. La généalogie ascendante de Saint-Luc figure notre élévation vers Dieu, avec lequel nous sommes réconciliés par la rémission de nos péchés, car le baptême remet tous les péchés figurés par le nombre des 77 personnes de la généalogie. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Saint-Pierre qu'il fallait pardonner non pas 7 fois, mais 77 fois 5 fois. Et cette universalité, si vous voulez, du salut apporté par notre Seigneur Jésus-Christ est représentée par cette généalogie. Donc, les générations passent, disent les pères, comme la vie de l'homme, et le présent est vite transformé en un passé. C'est pour ça que tout est à l'imparfait. Enos le fut de Seth, qui le fut d'Adam, qui le fut de Dieu. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, en tant que Dieu, est l'éternel présent. Il est hors de l'histoire, puisqu'il est le fondateur de l'histoire. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, lui est dans l'histoire. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, notre Seigneur Jésus-Christ a véritablement, en lui, en tant qu'homme, été créé. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas toujours été existée, elle a été créée de toutes pièces. Le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, son sang évidemment, ont été créés de toutes pièces au moment de l'accomplissement du mystère de l'incarnation le 25 mars. Alors que la divinité, elle, a toujours existé. Donc je passe un peu rapidement sur cette généalogie. Encore une fois, c'est une partie très technique. Il y a des livres entiers qui ont été écrits pour expliquer les différents noms. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que ça serait beaucoup trop long. Encore une fois, j'essaye de mettre le cours d'exégèse des pères de l'Église au niveau, si vous voulez, l'abaisser à notre niveau pour que nous comprenions bien. Ce n'est pas un cours d'exégèse que je donne destiné à des exégètes de renom. Je n'ai pas du tout le niveau moi-même pour faire ça. C'est un cours d'exégète qui vous est donné pour vous aider à aimer l'Écriture sainte, aimer les évangiles. Donc nous allons maintenant passer au chapitre 4, vers page 35, Saint-Luc chapitre 4. Là, il y a un passage très important, l'histoire des trois tentations. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va accepter d'être tenté par le démon. Non seulement il va accepter d'être tenté par le démon, mais il va accepter même d'être touché par lui. Donc, le démon va prendre notre Seigneur Jésus-Christ littéralement pour le mettre au sommet du temple, pour le mettre au sommet de la montagne. C'est des choses difficiles à comprendre. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il pu accepter d'être touché par le démon? Mais la réponse est toute simple, parce qu'il a voulu tout prendre dans l'homme. Il a été touché superficiellement par le démon. Le démon n'a rien pu faire, n'a pas pu pénétrer dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Donc, ces suggestions démoniaques ne sont restées qu'à la surface de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas une seule seconde eu la tentation d'accepter ces tentations. Mais notre Seigneur a accepté d'être tenté pour nous montrer qu'il est homme. Il est homme en tout, il est homme de douleur en tout, il a tout pris sur nous, y compris nos tentations. Y compris nos tentations pour bien nous montrer qu'il avait une véritable humanité. Ce n'était pas une humanité de façade, une espèce d'apparente humanité, non, c'était une véritable humanité. Contrairement à certaines apparitions qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque l'ange Raphaël apparaît à Tobie, eh bien, il fait semblant de manger devant lui. L'humanité qu'il présente à Tobie n'est pas une humanité véritable. Au contraire, l'humanité qui s'est formée dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars, est une humanité véritable. Notre Seigneur Jésus-Christ a vraiment souffert. L'ange qui est apparu à Tobie ne pouvait pas souffrir, parce qu'il était un pur esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ est un pur esprit en tant que Dieu, mais il est véritablement homme, donc il a pu véritablement souffrir. Alors, ces trois tentations très connues représentent les tentations, évidemment, habituelles du démon et de tous les ennemis de l'Église. On peut expliciter ces trois tentations du démon à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ par le fameux texte écrit, envoyé par la Sainte Vierge à Saint Ignace, puisque c'est la Sainte Vierge qui a donné le texte et l'exercice Saint Ignace à Saint Ignace de Loyola. Dans la grande méditation sur les deux étendards, une méditation clé de la deuxième partie des exercices après les confessions générales. Donc Saint Ignace explique que il y a un combat terrible entre, d'un côté, notre Seigneur Jésus-Christ qui appelle tous les hommes et veut les réunir sous son étendard, la croix, et de l'autre, c'est Lucifer qui les appelle sous le sien. Donc, d'un côté, il y a, si vous voulez, il y a Jérusalem, au milieu de laquelle se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, chef souverain de tous les hommes vertueux, et d'autre part, il y a Babylone, avec Lucifer, le chef des ennemis. Alors voilà les tentations explicitées dans le texte de Saint Ignace. Je vous rappelle que ce texte vient de la Sainte Vierge. Je me représenterai, dit Saint Ignace, le chef de bande du parti ennemi dans cette vaste campagne de Babylone, comme assis dans une chaire élevée, toute de feu et de fumée, sous des traits horribles et d'un aspect épouvantable. Et je considérais comment il appelle autour de lui des démons innombrables, comment il les répand, les uns dans une ville, les autres dans une autre. Et ainsi, dans tout l'univers, n'oubliant aucune province, aucun lieu, aucune condition, aucune personne en particulier.
Alors voilà la partie qui m'intéresse ici. J'écouterai le discours. Donc le démon adresse à ceux qu'il veut enchaîner. Comme il ordonne donc à ses démons, avec menace, de jeter des filets et des chaînes sur les hommes. Ils doivent les tenter en leur inspirant d'abord le désir des richesses, l'argent d'abord, comme il le fait le plus souvent lui-même, afin de les conduire plus facilement à l'amour du vain honneur du monde, et de là un orgueil sans borne. Donc richesse, première étape. Deuxième étape, les honneurs. Troisième étape, l'orgueil. Il faut comprendre que dans ces trois mots, toutes les tentations sont représentées. Donc les richesses, l'argent, qui entraînent le vain honneur du monde, et de là l'orgueil sans borne. L'argent, par exemple, donne, multiplie à l'infini les tentations. Pour cela que dans ce texte de Saint Ignace, il n'est pas parlé expressément des tentations contre la chair, parce qu'elles sont comprises, en fait, dans tous les honneurs du monde. À partir du moment où j'ai les richesses vont être utilisées par le démon pour me pousser dans les péchés de chair, surtout les péchés contre nature. De sorte, dit, conclut Saint Ignace, que le premier degré de la tentation sont les richesses, le second les honneurs, le troisième l'orgueil, et de ces trois degrés, il porte les hommes à tous les autres vices. Donc, les trois tentations du Christ, signifient l'intégralité des tentations. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu prendre sur lui, si vous voulez, montrer qu'il était vraiment homme, et pour prouver qu'il était vraiment homme, il a accepté d'être tenté comme les hommes. Donc on retrouve les tentations, si vous voulez, des richesses, les honneurs et l'orgueil. En fait, les pères de l'Église expliquent très bien, on va voir ça avec les textes ici qui sont à la page 35 du Polycopier, les pères de l'Église expliquent comment ces tentations représentent les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, le désir de tout posséder, concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté, concupiscence de l'orgueil. Le pire étant étant l'orgueil. Donc on va voir ça dans les trois tentations du démon à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, tentation de sensualité, d'ambition et de vaine-gloire. Vous le savez, l'Église a toujours demandé aux chrétiens catholiques de lutter contre ces trois tentations, donc la chair, les yeux, l'orgueil, avec l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Donc contre la tentation de tout posséder, tentation de la concupiscence des yeux, ce sera l'esprit de pauvreté. Contre la tentation de la chair, ce sera l'esprit de chasteté. Et contre l'orgueil, l'esprit d'obéissance. Pauvreté, chasteté, obéissance, les trois vœux des moines. Et les trois conseils évangéliques que Dieu rajoute à tous ceux qui veulent le suivre, d'une façon toute parfaite. De façon générale, tous les hommes sont tenus par la loi naturelle, les 10 commandements de Dieu, mais à ceux que Dieu aime d'une façon toute particulière, il va proposer trois choses en plus, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Si tu veux être parfait, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Rappelez-vous le passage du jeune homme riche qui vient voir notre Seigneur Jésus-Christ en lui posant la question, Seigneur, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et notre Seigneur de lui répondre, il faut suivre les commandements. Je le fais déjà, dit l'homme. Que dois-je faire de plus? Et l'évangile dit bien, notre Seigneur Jésus-Christ le regarda et l'aima. C'est le symbole de la vocation religieuse. Si tu veux être parfait, alors vends tout ce que tu as. Donne aux pauvres, puis viens et suis-moi. Donc il le pousse plus haut. Il dit très bien, si tu suis déjà les commandements de Dieu, c'est magnifique. Maintenant, si tu peux remonter encore plus haut, c'est la loi des conseils évangéliques. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et malheureusement, l'homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il n'a pas voulu s'en détacher et donc il a refusé sa vocation. Donc voilà le texte, verset chapitre 4 donc, de Saint Luc, versets 1 à 5. Je vous lis le texte des trois tentations. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pendant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, dites à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Et l'ayant élevé, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable lui dit, je vous donnerai toute cette puissance avec leur gloire, car elle m'a été remise, je la donne à qui je veux. Si donc vous vous prosternez devant moi, elle sera toute à vous. Et Jésus répondant, lui dit, il est écrit, vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul. Il le conduisit alors à Jérusalem. Il le posa sur le pinacle du temple et lui dit, si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour vous des ordres à ses anges pour vous garder, et ils vous prendront sur leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus répondant, lui dit, il est dit, vous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu. Ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au temps marqué. Et Jésus retourna avec la puissance de l'Esprit en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Et il enseignait dans leur synagogue, et tous publiaient ses louanges. Donc on voit trois tentations qui vont représenter justement les trois concupiscences. Première tentation, dites à cette pierre qu'elle devienne du pain. Deuxième tentation, je vous donne toute cette puissance que vous voyez depuis cette montagne. Et si vous vous prosternez devant moi et que vous m'adorez, troisième tentation, du haut du pinacle du temple, si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous en bas. Donc ce sont des tentations, si vous voulez, on retrouve là les trois tentations. Donc tentation de sensualité, tentation d'ambition, tentation de vaine gloire. Donc ça représente les trois concupiscences, la chair, les yeux et l'orgueil. Sensualité, le pain, c'est la tentation de la chair. L'ambition, c'est les tentations des yeux, désir de tout avoir. Et la vaine gloire, tentation d'orgueil. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu donc passer par ces trois tentations pour bien nous montrer, nous enseigner que si lui, qui est Dieu, accepte d'être tenté par le démon, il ne faut pas s'étonner si nous, qui ne sommes que des pauvres créatures, et qui ne sommes pas Dieu, eh bien évidemment, nous aurons aussi à passer par les mêmes tentations. Celui qui veut vivre pieusement, nous dit Saint Paul, à Timothée, je crois, il nous dit, si celui qui veut vivre pieusement, eh bien, qui se prépare à la tentation. Alors, traditionnellement, on reviendra là-dessus plus tard, mais traditionnellement, l'Église a toujours conseillé contre chacune de ces tentations, donc des pénitences particulières, contre la tentation de la chair, le jeûne, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a passé 40 jours sans manger, contre la tentation des yeux, l'aumône, et contre la tentation de l'orgueil, la prière. Le jeûne, l'aumône. La prière. Les trois grands moyens de lutte contre la tentation. Il faut rajouter, bien sûr, les sacrements, surtout le sacrement de la Sainte Eucharistie, les sacrements de pénitence. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin, évidemment, du sacrement de la pénitence, puisqu'il n'avait pas de péché. Alors, voyons ce que disent les pères sur ce sujet. Le Christ a voulu être tenté après son baptême pour nous apprendre qu'après notre baptême, nous devons nous attendre à la tentation. Quand je baptise les adultes, je suis obligé de les prévenir. Je les préviens en disant, attention, vous aviez peut-être pas trop de tentations comme païen, mais maintenant que vous devenez catholique par le baptême, vous allez devenir un gibier de choix pour le démon. Donc ne soyez pas surpris si rapidement vous avez beaucoup plus de tentations. Mais vous serez plus fort pour lutter contre ces tentations, parce que comme païen, vous ne pouviez pas utiliser les sacrements, la porte des sacrements n'étant pas ouverte dans votre âme, mais maintenant que vous êtes baptisé, vous pouvez utiliser la confession et la communion. Comme païen, vous pouviez prier, mais vos prières avaient une force limitée. Aujourd'hui, comme catholique, vos prières auront une force beaucoup plus grande, cette force sera décuplée, justement, et vous pourrez utiliser les sacrements de pénitence et de Sainte Eucharistie pour devenir plus fort. Et beaucoup d'adultes qui ont été baptisés m'ont dit, monsieur l'abbé, depuis que je suis baptisé, j'ai beaucoup plus de tentations qu'avant, parce qu'on sent très bien que le démon n'est pas content et se venge. Alors, il faut donc nous préparer à la tentation. Toute la vie d'un catholique, c'est une vie de tentation. Et ces tentations ne cesseront qu'à la mort. Donc les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans la même mesure que le Sauveur. Quand nous disons, en parlant de plusieurs vases de grandeur différentes, qu'ils sont pleins, ça ne veut pas dire qu'ils contiennent la même quantité d'huile. Donc notre Seigneur Jésus-Christ demande à chacun d'entre nous quelque chose en fonction de ce qu'il a reçu et ce qu'il peut donner. Rappelez-vous la comparaison très belle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui compare chaque âme à un verre. Il y a les petits verres à liqueur tout petits, les grands verres à bière beaucoup plus grands. Ce que demande au bon Dieu, pour notre âme qui est représentée par le verre, c'est que l'âme soit pleine de Dieu. Un petit verre va être rapidement rempli par la grâce du bon Dieu. Un grand verre à bière, par exemple, lui devra contenir beaucoup plus de divinité pour pouvoir être plein. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas demander à celui qui a une âme de la taille d'un petit verre à liqueur ce qu'il va demander à celui qui a une âme de la taille d'un grand verre à bière. Il tient compte justement de ce qu'on peut donner, c'est la parabole des talents. À celui qui a reçu 5 talents, il va en demander 10. À celui qui a reçu 2, il va en demander 4. Et celui qui n'en a reçu qu'un seul, il va en demander 2. Il ne viendrait pas à l'idée de demander à celui qui n'a reçu que 2 talents de rendre 10 talents. Dieu est plein de justice. Donc le Christ va dans le désert, c'est ce qu'il est dit, il est conduit par l'Esprit dans le désert. Le Christ va dans le désert pour délivrer de l'exil cet Adam qui avait été chassé du paradis dans le désert. Donc le paradis terrestre, était le lieu d'habitation d'Adam et Ève. Par le péché original, ils ont perdu ce lieu et se sont retrouvés dans le désert du monde, dans le désert des épines et du monde. Donc, pour nous apprendre, donc Dieu va dans le désert pour nous apprendre par son exemple que le démon voit avec un œil d'envie ceux qui tendent à une vie plus parfaite. Que nous devons alors nous tenir sur nos gardes pour ne pas nous exposer à perdre par la faiblesse de notre âme la grâce du sacrement que nous avons reçu. Que celui qui est debout, dit saint Paul, qui prenne garde à ne pas tomber. Il faut être prudent. Sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas un seul péché que le voisin ait commis que je ne sois pas capable de commettre. Et si le voisin avait reçu toutes les grâces que moi j'ai reçues, il serait sans doute plus saint. Il faut bien comprendre ça. Toute la vie spirituelle est fondée sur la vertu fondamentale de l'humilité. Le Père de l'Église considère l'humilité comme le terreau des vertus. Le terreau des vertus, c'est-à-dire la bonne terre dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ va planter les différentes graines, et ces graines vont grandir et vont donner des fleurs magnifiques. Donc le Christ a jeûné 40 jours, pour nous apprendre que la tempérance est nécessaire à celui qui veut se préparer au combat de la tentation. On ne peut pas lutter contre les tentations sans faire pénitence. Et les 3 pénitences, encore une fois, que l'Église conseille pour lutter contre les tentations sont le jeûne contre la tentation de la chair, l'aumône contre la tentation des yeux et la prière contre la tentation de l'orgueil. Donc, que celui qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ se prépare à la tentation. La tentation est beaucoup plus forte chez les catholiques, encore une fois, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de donner plus de grâce à celui qui est catholique, parce que celui qui est catholique reçoit plus de tentations. C'est un peu un mystère. On pourrait croire qu'à partir du moment où on est baptisé, on va baigner dans le bonheur, dans le bonheur spirituel, et tout va être facile. Non, c'est le contraire. Parce que le démon ne peut pas supporter, surtout les baptêmes d'adultes. Alors, les pères font remarquer que 3 choses concourent puissamment au salut de l'homme. La grâce du sacrement, la solitude, le jeûne. Notre Seigneur Jésus-Christ ne parle pas dans le bruit. C'est pour ça que lorsqu'on veut prier, il faut commencer par s'éloigner des rumeurs du monde, du bruit du monde. Donc par un dessein de pleine sagesse, le Christ ne voulut point jeûner plus longtemps que l'avaient fait Moïse et Élie. Élie et Moïse avaient tous les deux jeûné 40 jours. Mais notre Seigneur n'a pas voulu donner l'impression qu'il avait un corps imaginaire et fantastique, et qu'il avait pris donc une nature supérieure à la nôtre. Et donc il n'a pas dépassé le temps qu'avaient choisi Élie et Moïse. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ avait jeûné par exemple... 6 mois ou 1 an, les apôtres auraient dit, mais c'est pas possible, un homme ne peut pas jeûner si longtemps. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas homme. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'a jeûné que 40 jours pour bien montrer qu'il était homme. et qu'au bout de 40 jours, il avait besoin de sustenter son corps, puisqu'il était vraiment homme. Donc, ce chiffre 40, les 40 jours de jeûne, est un chiffre symbolique aussi, parce qu'il représente les eaux du déluge qui tombèrent pendant 40 jours. Également, les 40 ans de la traversée du désert par le peuple juif. Donc ce nombre 40 est le symbole de la vie laborieuse pendant laquelle, sous le camp de la conduite et le commandement de Jésus-Christ notre roi, nous combattons contre le démon. Donc, c'est le symbole, si vous voulez, ce chiffre 40, c'est le symbole de la vie spirituelle qui est un combat spirituel. Donc la vie spirituelle est toujours un combat spirituel, sauf pour les enfants, les bébés meurent, qui sont morts juste après le baptême. Eux sont des voleurs de paradis, ils vont au paradis par la voie d'innocence. Mais nous tous qui avons péché, eh bien, nous allons au paradis par la voie de pénitence. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, aurait pu aller retourner au paradis par la voie d'innocence, puisqu'il n'avait jamais péché. Mais comme il a voulu nous montrer l'exemple, bien qu'il n'eût jamais péché, il a voulu prendre la voie de pénitence pour bien nous montrer que nous qui sommes pécheurs, nous devons prendre cette voie. La voie d'innocence est fermée à toute personne qui a commis même un simple péché véniel. Au premier péché, la voie d'innocence nous est fermée. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, si la confession efface le péché, pourquoi ne pouvons-nous pas trouver la voie d'innocence après une bonne confession? Parce qu'il reste justement les peines temporelles des péchés déjà pardonnés à payer. Il y a les peines du purgatoire. Donc ce nombre 40, disent les pères, est le symbole de la vie active, pendant laquelle, sous la conduite et le commandement de Jésus-Christ, notre roi, nous combattons contre le démon. Donc, les trois tentations du Seigneur représentent les trois traits par lesquels le démon cherche à nous blesser. La sensualité, la vaine gloire et l'ambition. Sensualité, de changer les pierres en pain. La vaine gloire, lorsqu'il monte notre Seigneur Jésus-Christ. Le démon monte notre Seigneur Jésus-Christ au sommet de la montagne. Et l'ambition, l'orgueil, donc, lorsqu'il lui dit « jette-toi en bas depuis le sommet du temple ». Quand vous voyez, disent les pères, les hérétiques manger au lieu de pain le mensonge de leur fausse doctrine, soyez certains alors que leurs discours sont cette pierre qui leur est montrée par le démon. Donc la pierre, sous la pierre, il n'y a rien qui pousse. Donc la pierre représente justement, est un, non seulement le symbole des péchés de la chair, pour cela que le démon propose de changer ses pierres en pain. Le pain, c'est le symbole, si vous voulez, un petit peu de la sensualité, on peut dire, la gourmandise, le péché de gourmandise, en fait, représente aussi tous les péchés de la chair. Il y a un symbole derrière. Donc la vie surnaturelle s'accroît par la nourriture, utilisant la vertu de tempérance, et par le pain, qui est symbole de la sagesse. Par la sagesse. La sagesse va mortifier l'usage de la nourriture. Donc il faut une vertu spéciale pour mortifier justement cet attrait pour la nourriture, cet attrait pour les choses de ce monde, ce qu'on appelle la vertu de tempérance. Rappelez-vous l'importance de ces vertus qu'on appelle les vertus cardinales, donc qui ouvrent comme des gonds qui permettent à la porte de s'ouvrir davantage pour laisser pénétrer la grâce du bon Dieu. Les quatre vertus cardinales sont essentielles. Justice, prudence, force et tempérance. Ici, on parle de la vertu de tempérance, parce que c'est la tempérance qui va juguler en quelque sorte et régler raisonnablement l'usage de la sensualité. Il y a une sensualité qu'on a le droit de prendre, attention. Des époux, par exemple, ont le droit de jouir du plaisir conjugal, parce que c'est une sensualité qui est réglée par un sacrement, le sacrement de mariage. Et dans la mesure où les époux conservent les fins du mariage, respectent les fins pour lesquelles le bon Dieu a voulu ce plaisir conjugal, à ce moment-là, les époux non seulement ne pêchent pas, mais se sanctifient par cet acte. De la même façon, puisque nous devons vivre pour aller au ciel, le bon Dieu a voulu donner une certaine sensualité dans le plaisir de manger. Et ce n'est pas un péché d'apprécier la bonne nourriture, tant que c'est raisonnable, tant que c'est raisonné justement par le travail de la raison. Donc ce n'est pas un péché d'aimer les bonnes choses. C'est un péché de d'aimer les bonnes choses à un point tel qu'on transforme les moyens en fins. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Mais celui qui commence à vivre pour manger, place comme fin de sa vie la nourriture. Et donc c'est un péché d'idolâtrie. La nourriture devient son Dieu. Donc la justice, alors je reprends la phrase, la vie surnaturelle s'accroît par la nourriture et le pain. La nourriture menée par la vertu de tempérance, le pain est représenté, va être dominé, c'est l'amour du pain, l'amour des choses matérielles de ce genre, par le don de sagesse. La justice est son mets le plus exquis, la fermeté sa boisson, son plaisir le goût de la vertu. Donc celui qui fait profession de suivre le Verbe de Dieu ne peut plus faire d'un pain matériel l'objet de ses désirs, car les choses divines sont infiniment au-dessus des choses de la terre. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va dire au démon, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le démon essaye de ramener l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ aux choses bassement matérielles, comme le pain, alors qu'en fait, notre Seigneur Jésus-Christ va monter au-delà de ces choses-là. Donc les choses divines sont infiniment au-dessus des choses de la terre. Malheur à celui qui se cantonne aux choses matérielles. Le problème, c'est que plus on est attaché aux choses matérielles, moins il y a de place dans notre âme pour les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter la grâce du bon Dieu dans notre âme si notre âme est remplie de choses matérielles. Donc, ou on adore notre Seigneur Jésus-Christ, ou on a un faux Dieu dans notre âme. Et ce faux Dieu dans notre âme sont justement les plaisirs des trois concupiscences. La concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, la concupiscence de l'orgueil sont comme trois faux dieux qui essayent d'usurper dans notre âme la place de Dieu. Donc les démons montrent aussi à notre Seigneur Jésus-Christ tous les royaumes du monde. Il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, sous verset 5 en bas de la page 35. Et le diable lui dit, je vous donnerai toute cette puissance avec leur gloire, car elle m'a été remise, je la donne à qui je veux. Si donc vous prosternez devant moi, elle sera tout à vous. C'est-à-dire, si vous m'adorez, je vous donne tout. Donc le démon montre en s'intestant tous les royaumes du monde, tous les royaumes de la terre, pour exprimer la fragilité de cette puissance passagère, car toutes ces choses passent en un moment, et souvent la gloire du siècle disparaît avant qu'elle ne soit venue. Donc on voit très bien que le monde, le dieu du monde, si vous voulez, le démon, couvre les hommes de choses matérielles pour qu'il n'ait plus de place pour penser aux choses surnaturelles. Donc le démon va emmagasiner dans nos cœurs, dans nos âmes, des choses secondaires, des choses matérielles, pour qu'il n'y ait plus de place dans cette âme pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand je veux mettre notre Seigneur Jésus-Christ dans une âme qui est déjà encombrée de choses matérielles, il faut d'abord faire de la place. Il faut enlever des choses matérielles pour faire de la place au bon Dieu. Attention, on a le droit d'avoir dans notre âme aussi des choses matérielles. Mais elles doivent être à leur place. D'abord Dieu, puis les créatures de Dieu, et pas l'inverse. Sinon on tombe dans l'idolâtrie. Quand on pense par exemple à ces milliardaires qui possèdent la moitié de l'humanité, on peut vraiment se poser la question, comment voulez-vous que ces gens qui ont tellement d'argent puissent vivre en état de grâce? C'est pratiquement impossible. Et on voit très bien, avec les grands convertis, dès qu'un riche se convertit, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout lâcher. Donc, prenez l'exemple, par exemple, de Jeff Bezos, hein, le patron d'Amazon, qui vient de passer, d'après ce que j'ai vu, la barre des 200 milliards de dollars de propriété personnelle. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous quelqu'un qui a 200 milliards à sa disposition, puisse vivre en état de grâce pendant quelques secondes? C'est impossible. Il est pratiquement impossible pour quelqu'un qui a des richesses pareilles de pas vouloir se prendre pour le bon Dieu et vouloir se mettre à la place de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe. On voit très bien ça chez des gens comme Soros ou Zuckerberg ou Bezos ou tous ces milliardaires d'aujourd'hui qui pensent qu'on peut acheter les hommes avec de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où un homme comme Jeff Bezos, par exemple, va mourir. Il va passer devant Dieu. Il va devoir laisser ses 200 milliards derrière lui. Et ses descendants vont se battre pour posséder l'argent. Et lui, il va se présenter devant Dieu avec les mains vides. C'est ça qui est terrible. Vous voyez ? Donc, le démon, j'aime bien cette phrase que vous avez en bas de la page 35. Donc, le démon qui montre en un instant tous les royaumes du monde pour exprimer la fragilité de cette puissance passagère, car toutes ces choses passent en un moment et souvent la gloire du siècle disparaît avant qu'elle ne soit venue. Donc, on va passer à la page 36. Donc, j'ai déjà lu le texte de l'évangile. Voilà ce que disent les pères sur ce passage. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir été tenté, retourne dans la prédication pour enseigner dans les synagogues. Celui qui, disent les pères, aux choses du ciel préfère les biens trompeurs de la terre, se jette comme volontairement dans un précipice où il trouve la mort. Ne vous laissez pas séduire par les hérétiques qui vous citent des citations de l'Écriture, car le démon recourt à l'Écriture non pour enseigner mais pour tromper. C'est pour ça que le démon a le culot de citer l'Écriture sainte. Il donnera pour vous des ordres à ses anges pour vous garder, et ils vous prendront sur leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Ne vous laissez donc pas séduire par les hérétiques donc, qui ont recours à l'Écriture, non pour enseigner, pour tromper. On voit très bien ça avec les témoins de Jéhovah. Donc ils vous citent certains passages de l'Écriture sainte qu'ils connaissent par cœur, et dès que vous les amenez sur une autre partie de l'Évangile, ils sont complètement perdus. Donc toutes ces tentations, c'est la conclusion des pères, viennent des trois concupiscences. Donc on note que Saint Jean n'a pas raconté les tentations du Sauveur, parce que la divinité dont il voulait surtout parler est inaccessible à la tentation. Mais au contraire, les autres évangélistes, qui avaient surtout pour objet de décrire la génération temporelle et la vie humaine du Christ, nous ont raconté sa tentation, pour bien montrer son humanité. Donc les synoptiques, l'évangile selon Saint Matthieu, l'évangile de Saint Marc, l'évangile de Saint Luc, on appelle ça les synoptiques, les trois synoptiques insistent beaucoup plus sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, l'évangile de Saint Jean, on verra ça plus tard, est beaucoup plus élevé, parce qu'il insiste plus sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le symbole de l'évangile de Saint Jean et l'évangéliste Saint Jean lui-même, c'est l'aigle. L'aigle qui monte dans les cieux. Alors que les synoptiques, au contraire, sont représentés par le taureau, par l'homme ou par le lion. Donc des choses d'ici-bas. Au contraire, Saint Jean monte dans les hauteurs. Donc on peut dire que Saint Jean parle davantage de la vie contemplative et les trois synoptiques davantage de la vie active. Donc il faut méditer sur ces passages extraordinaires de la... Des trois tentations de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est difficile, encore une fois, de comprendre comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il pu accepter cette humiliation, accepter d'être touché par le démon. Nous aussi, nous sommes touchés par le démon. La différence, c'est que quand notre Seigneur Jésus-Christ est touché par le démon n'a aucune puissance sur lui, aucune emprise sur lui. Hélas, nous, lorsque nous sommes touché par le démon, c'est beaucoup plus difficile parce que nous sommes touchés par le démon, mais le démon entre dans notre âme et finit par nous faire consentir. Donc les tentations sur notre Seigneur Jésus-Christ ne présentent aucun caractère de danger pour lui, alors que les tentations pour nous sont beaucoup plus graves. Donc, il faut vraiment comprendre ces choses-là pour nous rappeler que la première protection contre les tentations, c'est l'humilité. Alors nous allons arrêter là, j'essaie de ne pas dépasser l'heure quand je donne ces cours. Donc si Dieu veut, le prochain cours pour le prochain mercredi. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.